Europe 1 Sport, la Ligue des Nations.
Lionel Rousseau.
La Ligue des Nations avec la défaite de l'équipe de France 2-0. Le débrief jusqu'à 23h en compagnie de Jean-François Pérez, Jackie Bonnevet, Grégory Schneider et Nabil Djellit. C'est vrai qu'on est un petit peu déçus, pas sous le choc hein, évidemment, parce que comme le disait Jean-François tout à l'heure, Nabil Djellit, il y a beaucoup d'absents dans évidemment. Cette équipe. Alors ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication tout de même. Qu'est-ce que vous retenez néanmoins de ce match? Est-ce que vous êtes inquiet à quelques semaines maintenant de la Coupe du Monde?
Je suis inquiet, mais je l'étais déjà, notamment par le fait qu'on soit autant en difficulté avec une hécatombe de blessures et de joueurs importants. Ce soir, qu'on le veuille ou non, pour moi, c'est une équipe B de l'équipe de France. Il manque quasiment 50% des titulaires. Je ne sais pas dans quel état de forme ils seront là à la Coupe du Monde. Je ne sais pas s'ils seront tous là. On pourra analyser ensemble le match face au Danemark et voir effectivement certaines failles, certaines difficultés. Mais ce soir, j'ai quand même envie de rappeler, je ne sais pas, une culture de l'excuse. Il manque Benzema, il manque N'Golo Kanté, il manque Théo Hernandez, il manque Lucas Hernandez, il manque Loris, il manque Varane également.
Kimpembe.
Il manque Kimpembe. Je suis quasiment en train de vous donner presque une équipe type quoi, de l'équipe de France qui n'était pas présente. Donc c'est ça qui m'inquiète. Plus que finalement ce match face au Danemark où il y avait beaucoup de joueurs inexpérimentés. Et c'est vrai qu'on a été dépassé, mais on a été dépassé par une très bonne équipe danoise, rappelons-le quand même.
Néanmoins, on peut peut-être noter, vous qui étiez au stade pour commenter ce match, Jean-François Pérez, non pas un manque d'envie, mais un manque d'intensité, d'impact. Et c'est ça qui fait la différence aussi à haut niveau dans un match de grande compétition.
Ouais, mais j'ai eu la sensation quand même... Même si c'était peut-être inconscient, hein, mais j'ai eu la sensation que l'enjeu de ce match n'intéressait pas plus que ça l'équipe de France, qui était là pour dérouler, qui était là pour faire une revue d'effectifs, qui était là pour rôder peut-être quelques automatismes aussi, pour prendre quelques infos, on va dire, pour aller faire les derniers papiers avant de prendre la direction du Qatar. Sauf qu'il y avait quand même un esprit de compétition bien plus développé chez les Danois, même s'ils n'iront pas dans le Final Four. Ils ont quand même sorti ce soir une prestation de très grande qualité. On a vu quand même que dès qu'il y a 3-4 titulaires de l'équipe de France qui ne sont pas là, on n'est pas très très loin du niveau de cette équipe danoise qui, ne l'oublions pas, a quand même été demi-finaliste de l'Euro sans démériter. Je veux dire, elle n'a pas volé sa place. C'est une excellente sélection européenne, très cohérente vraiment, qui joue de façon... très optimal par rapport aux talents qui sont à sa disposition. Ce n'est pas le réservoir de l'équipe de France, mais c'est bien pensé. Voilà. Et ce soir, c'était bien récité. Et l'équipe de France était une proie bien trop facile pour ce Danemark-là.
C'est difficile en tout cas d'analyser, c'est vrai, Jackie Bonnevet, parce que si cette équipe de France a pris l'enjeu de cette rencontre à la légère, il y avait néanmoins la majorité des joueurs qui avaient des points à marquer, à se signaler auprès du sélectionneur pour partir à la Coupe du Monde dans deux mois.
Je suis tout à fait d'accord avec Jean.
Ils ne l'ont pas fait.
Avec Jean-François, si ce n'est que quand on attend aussi longtemps pour avoir sa chance avec l'équipe de France et qu'on ne saisit pas cette opportunité, là, c'est un sérieux problème parce que dans l'intensité, dans la technicité, on a eu vraiment des manques, même s'il faut reconnaître qu'on a eu affaire à une très bonne équipe,
oui,
bien organisée.
C'est incontestable.
La deuxième mi-temps, je serais tenté de dire qu'elle est moins mauvaise que la première. C'est-à-dire que si Mbappé, dans les deux situations face à face, il nous avait mis un petit but, ça nous aurait donné un petit peu d'élan, d'allant et peut-être un petit peu d'espoir sur la fin qui nous aurait permis d'avoir un tout petit peu plus de confiance. Alors qu'en deuxième période, il m'a semblé que les Danois, ils ont déroulé, ils étaient assez sereins, on ne les a pas vraiment mis en difficulté. Ils ont continué leur match en sachant qu'ils ont été remarquables. Alors, dans les meilleurs joueurs danois, c'est vrai qu'il y avait Eriksen, il y avait Skov Olsen, mais je trouve que Kasper Schmeichel a été aussi très, très bon dans le but.
Les Danois, ils sont bons avec leur sélection, mais quand ils jouent avec Nice, c'est plus compliqué.
C'est un peu
l'enseignement de la soirée.
Avec Leicester, quand nous étions avec Puel là-bas, c'est un très bon gardien. C'est vrai qu'il est en difficulté chez les Niçois. Mais qui, ce soir, il a fait une partie de très haut niveau.
Ouais. C'est vrai, il n'y a pas un joueur en particulier, pardonnez-moi, j'y reviens, Grégory Schneider, sur l'intensité, la volonté de marquer des points et de se montrer pour la Coupe du Monde dans un match officiel. Ce n'était pas un match amical, même si certains l'ont pris pour un match amical. Ce n'était pas un match amical et c'était la possibilité de s'inscrire dans l'esprit du sélectionneur. Or, aujourd'hui, qui marque des points? Dans cette équipe de France? Personne.
Personne, mais pour moi, ils ont essayé, vous savez. Enfin, j'ai eu l'impression qu'on était pris, pas tant dans l'envie ou dans l'impact. On a gagné plus de duels qu'eux, manifestement, mais on a été pris dans la vitesse. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que collectivement, ils avaient des, ou alors où ils avaient des circuits de passe qui étaient plus porteurs, ou j'ai eu l'impression qu'ils étaient en capacité de jouer beaucoup plus vite que nous, avec des mouvements plus élaborés, pour nous mettre un peu hors de position, parce que là, les défenseurs ont quand même supporté tout le poids du match, c'était compliqué. Donc moi, je suis beaucoup plus inquiet que Nabil par rapport à ça, j'entends ce qu'il dit. Mais alors on attend que reviennent ceux qui n'étaient pas là, mais Lucas Hernandez, ça fait deux saisons qu'on l'a un peu perdu à cause des blessures. Varane, vous verrez plus le terrible joueur qui gagnait à lui tout seul.
Enfin, ça sera mieux que Upamecano ce soir.
Vous regardez Varane, vous ne verrez plus le terrible joueur que vous avez vu en demi-finale contre la Belgique. Pogba et Griezmann, vous les avez perdus depuis trois ans, hein, depuis trois saisons. Donc alors on peut espérer que dans deux mois ça aille mieux, mais je vois pas quel titre. N'Golo Kanté, on en a parlé, il a pas disputé un tiers des rassemblements depuis le titre de champion du monde. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de fantômes quand même. Donc alors peut-être qu'ils vont subitement se réactiver, peut-être que, mais je vois pas comment. En gros, j'ai l'impression que c'est ou trop tard ou trop tôt. C'est trop tôt pour ceux qu'on a vu arriver aujourd'hui, parce qu'ils manquent de personnalité comme les jeunes joueurs. On peut pas leur demander d'impacter. Et c'est un peu trop tard parce que les autres sont passés. J'ai peur qu'on soit dans un moment un peu délicat.
On peut trouver des circonstances atténuantes, Nabil Djellit, ouais, aux jeunes joueurs, notamment la défense.
Et au milieu de terrain.
C'était une défense expérimentale, oui, milieu de terrain. Camavinga, ouais, notamment, qui est un joueur extrêmement talentueux, mais qui a peut-être perdu sa place pour la Coupe du Monde. Néanmoins, pour les cadres, en tout cas les joueurs référents, il y en avait au moins deux sur le terrain ce soir. Bah, il y avait Mbappé et Griezmann.
Oui. Ben, y en a un,
Olivier Giroud est un cas à part. Il n'a pas marqué, il est sorti, il a fait un non-match. On en parlera un petit peu plus tard. Moi, j'aimerais qu'on se focalise sur Mbappé, ouais, et sur Griezmann. Ah ben, Griezmann, pourquoi Didier Deschamps, quand Griezmann est comme ça, comme une âme en peine sur le terrain, persiste à le retenir et à le faire jouer titulaire comme quelqu'un qui est aussi efficace qu'il l'était lors de l'Euro 2016?
Mais parce qu'il y a une forme de loyauté, de fidélité, ce qui a été surtout
enfin,
Griezmann.
Ça a ses limites, ça, Nabil.
Ben, ça a ses limites, mais vous savez... Ce qui en général vous parfois peut vous pousser vers votre perte ou peut vous mettre en grande difficulté, c'est lorsque vous gagnez avec des joueurs, vous savez très bien qu'ils ne sont plus au niveau ou qu'ils sont en baisse et que vous les laissez sur le terrain parce que ça peut aussi briser une ambiance, des liens qui se sont noués pendant X années entre certains dans cette équipe. C'est-à-dire que Griezmann, la réalité c'est quoi? C'est que vous pouvez pas le mettre sur le banc. C'est soit il vient, il est sur le terrain, soit il vient plus. Et vous dites qu'il a plus de niveau, entre guillemets. Donc c'est ça aussi la difficulté. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui ont été à leur perte parce qu'ils ont conservé des joueurs avec qui ils ont gagné. Love avec l'Allemagne par exemple. Il y a eu le sélectionneur espagnol aussi à un moment qui a toujours fait confiance aux mêmes. Même par le passé, l'équipe de France, on a eu des tauliers avec qui on a été jusqu'au bout, de Saï par exemple. Eh ben, il y a un peu cette logique-là aujourd'hui avec Griezmann.
Griezmann, quand même, Nabil, il ne nous a pas rassurés lors des deux derniers matchs. Hein.
Ah ben non, mais pas du tout.
Moi, je pense que ce qui se dit
par rapport à son équilibre et son système, il se dit de toute façon, c'est plus le même joueur que de 2016. Ce que je lui demandais en 2016, c'était de me gagner les matchs. Aujourd'hui, je lui demande de faire du liant entre le milieu de terrain et l'attaque, Benzema et Mbappé qui vont me gagner les matchs. Et lui, de toute façon, il n'est plus là pour faire des stats. Il n'est plus invité dans ce registre-là. C'est pour ça qu'il se surinvestit défensivement.
Je comprends.
Il est très bon sur les tacles glissés en repli défensif. En revanche, ce qui faisait sa force avant, c'est-à-dire surgir dans la surface, gicler, être spectaculaire ou fluidifier le jeu en une touche, bah, il l'est beaucoup moins. Après, c'est un choix de sélectionneur. Et quant à Mbappé, je terminerai là-dessus, moi, je veux bien qu'on le critique ce soir parce qu'il a raté des occasions, mais très honnêtement, sans lui, il ne se passe rien.
C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, Jean-François Pérez, parce que si on part avec un état d'esprit conservateur, ce qui semble être le cas, celui de Didier Deschamps, c'est-à-dire que je garantis à mes proches, à mes vieux grognards, et notamment Griezmann, qui en est le parfait exemple, d'être là, d'être titulaire et d'aller à la Coupe du Monde, donc de mourir avec les idées au premier tour. Enfin, si on arrive en huitième de finale, c'est déjà bien, non?
Je pense qu'on en est un peu là, non?
Bah oui, exactement.
On en est un peu là.
C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions maintenant et avant la liste. Une révolution est à faire, à provoquer, Jean-François.
Moi, je suis pas persuadé que ce soit le style de Deschamps.
Non, c'est ça le problème.
Mais vous avez quand même sans doute la donnée fondamentale de l'histoire, c'est qu'une fois que la Coupe du Monde sera terminée, Didier Deschamps ne sera plus sous contrat avec la Fédération française de foot. Alors que les dernières fois, il pouvait encore continuer à dire « je construis, je peux me reposer sur ce que je suis en train de faire ». Là, c'est un petit peu le bout du chemin, là. Et on ne sait pas très bien si dans la foulée, il y a une bifurcation, si on va jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne ou si on s'arrête là. Donc, ce sera aussi, pardon de le dire, ça, on est loin de la liste des 23 et de la forme des joueurs et de tout ce genre de considérations qui nous occupent. Mais l'état d'esprit et l'état du contrat de Didier Deschamps, ça va être aussi une donnée à prendre en compte. Et Deschamps va sans doute construire sa liste par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'il a fait depuis 2012. Et oui, et ça fait 10 ans qu'il est là et je ne pense pas, quel que soit l'état de forme de Griezmann, s'il n'est pas blessé, Griezmann sera là. Il n'y a strictement aucun suspense.
Tout à fait.
Ouais, Grégory Schneider.
En fait, Jean-François, est-ce que tu n'as quand même pas l'impression qu'il y a tout un train qui est passé et que ceux qui arrivent sont plus capables de faire le truc?
Oui, on est dans un moment, j'ai l'impression, de transition.
De flottement,
oui. Où les vieux sont un petit peu trop vieux ou trop usés, ou appelez ça comme vous voulez.
Avec un statut.
Les jeunes trop jeunes.
Un peu blasés. Exactement, Lionel. Et des jeunes qui sont peut-être pas trop jeunes en âge, mais trop inexpérimentés. Ouais. Et au milieu, il manque quelque chose qui risque de nous faire défaut à la Coupe du Monde.
Bah, Mbappé tout seul pour faire ce qu'on
a vu que ce soir, que ça suffisait pas.
Mais si, par exemple, nous, ce soir, on devait se dire... Pour le premier match de la Coupe du Monde, des gens qui ont évolué ce soir, qui serait dans l'équipe à part Mbappé, Griezmann et Tchouaméni?
Ouais.
J'en vois pas d'autres.
Il n'y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas d'autres, on est d'accord.
Non, mais c'est vrai.
Pavard.
Ouais.
Pavard sera là aussi.
Pavard. Il nous a pas rassuré. Il sera sur le banc, je pense.
Axe droit. Peut-être axe droit.
Axe droit du banc.
Là, je pense à la liste des 26, des 23 ou des 26. Pavard en sera évidemment.
Oui.
Mais je pense que Mendy en sera évidemment aussi. Mais pas dans les titulaires.
Non mais pour la confiance on n'y est pas, pour la dynamique on n'y est pas. Je rappelle quand même que sur cette poule-là, on a gagné un seul match face à l'Autriche.
Mais vous avez vu cette stat extraordinaire que nous a donné Colin et que nous ont donné Colin et Cédric là tout à l'heure. L'équipe de France a perdu déjà cette année 2022, qui n'est pas finie évidemment. 3 matchs déjà et c'est le pire total d'une équipe de France égalée.
Et donc j'ai une autre stat qui est assez rude. Ils n'ont pas marqué un but en première mi-temps lors des 6 matchs de Ligue des Nations.
Comme le Liechtenstein, Malte.
Voilà.
Non, mais c'est vraiment symptomatique.
Mais quand on
s'en remet à Mbappé, moi je veux bien, c'est un joueur immense. C'est l'un des plus grands joueurs de la planète, incontestablement.
Pas ce soir,
mais c'est un joueur immense. Mais avec toutes les polémiques ou tous les sujets qu'on a évoqués et inhérents au football et à l'extra-football, tout ce qui se passe autour de l'entreprise Mbappé, le poids qu'il est en train de prendre, le leadership qu'il est en train de prendre. Il ne peut pas, Nabil Djellit, se concentrer et se consacrer au football et au terrain totalement. Donc il ne peut pas être partout. Forcément, il ne peut pas régler l'histoire des primes avec les droits sur les sponsors. Il ne peut pas non plus sauver la patrie sur le terrain. Il ne peut pas décider si Giroud va jouer ou pas dans la Coupe du Monde au Qatar. Ça fait beaucoup de choses pour un seul homme. Donc si on dit tout sur Mbappé, heureusement qu'Mbappé est là, vous allez voir ce qui va se passer. Mbappé, il va imploser et la France avec.
Bah, c'est sûr qu'en équipe de France, ça c'est une certitude, il a besoin de renforts parce qu'il ne suffit pas. C'est clair, il est sur différents fronts. Et je rappelle quand même qu'à la sortie du premier match, il avait l'esprit plus au Paris Saint-Germain et aux conditions dans lesquelles on le mettait plutôt qu'à sa performance avec l'équipe de France. Mais franchement, en équipe de France, en tout cas, moi, je croise les doigts quand même. Il y a Benzema, quoi. On l'oublie, en fait. Alors, je dis pas qu'il va tout nous régler, mais on parle quand même d'un joueur qui est exceptionnel et qui peut bonifier Mbappé. Après, ce soir, dans ce type de configuration, Mbappé il se dit qu'il a la légitimité pour être le patron, la légitimité pour pas lâcher le ballon, la légitimité pour frapper à chaque fois qu'il a le ballon.
Brassard. Vous avez remarqué quand Griezmann est sorti, il l'a donné tout de suite à Mbappé, ce brassard qu'il a mis sur son biceps gauche, et il va essayer de le garder.
Honnêtement, Lionel, sans lui ce soir, il y a quoi en fait?
Mais il ne s'est pas passé grand-chose quand même avec lui, malheureusement.
Le seul point positif pour le staff et Didier Deschamps en particulier, c'est que ce match donne énormément d'informations juste avant la liste. Il y a des joueurs
qui n'aiment pas le doute, Jackie. Des informations, aussi, d'accord, aussi, mais beaucoup des informations, plus de doutes quand même.
Des doutes, oui, mais je pense qu'il a des confirmations pour certains qui ne sont peut-être pas encore prêts pour le haut niveau, qui sont prêts, qui sont des très très bons joueurs de Ligue 1.
Mais ça reste insuffisant.
Mais ça reste insuffisant au niveau international quand on voit le Danemark et ce qu'ils ont présenté comme dans le contenu de ce match.
Pensez-vous, Grégory Schneider, que pour la première fois depuis très longtemps, Didier Deschamps est au pied du mur pour le choix? C'est-à-dire qu'il y a 5-6 jours avant le match d'Autriche, on pouvait se dire Deschamps, il a déjà sa liste, à part à 2 ou 3 exceptions près, il sait exactement qui sont les 23 ou les 26 qui vont partir. Là, ces deux matchs ont rebattu les cartes, mais de manière considérable.
Non, parce que je pense qu'il prendra les... On a une trentaine de gars dans le collimateur et je pense qu'il prendra les valides, tout simplement. Parce que faut pas se leurrer, il y aura de la... entre les valides et la force du moment, et après il va lancer le Mikado, il va espérer que les barrettes tombent. Non mais parce qu'il a pas de préparation, il a 5 jours. Donc on en est là, mais je pense qu'il prendra à peu près, il a une idée assez précise, et nous aussi, de l'élite.
Les matchs vont s'enchaîner, les Coupes d'Europe.
Espérant, alors c'est le seul espoir, mais c'est un espoir un peu mystique, c'est qu'une équipe se fait toujours pendant la compétition, elle se fait jamais avant. Regardez historiquement, ça n'est jamais arrivé. Donc vous pouvez toujours vous dire que c'est pendant le truc qu'il faudra trouver quelque chose. Mais j'ai beaucoup de mal, j'ai quand même beaucoup... Enfin, en tout cas, il part de loin, voilà, on va dire ça.
Ça se fait souvent quand on va loin dans la compétition.
Hein. Ouais. Oui, encore faut-il.
Mais moi, on a quand même un premier tour, même si on a vu un Danemark assez fort ce soir.
Oui.
Moi, je trouve qu'on a quand même un premier tour très abordable, oui, sans sous-estimer la Tunisie et l'Australie.
L'objectif de France, c'est pas passer juste le premier tour, Nabil. Vous voyez ce que
oui,
je veux
mais
dire,
vous pouvez vous servir du premier tour pour monter en puissance également.
Peut-être.
Non, mais ou retrouver des joueurs, redonner du rythme à ce moment-là à certains joueurs. Je crois pas que ça soit l'Australie ou la Tunisie qui vont mettre à mal l'équipe de France. Après, je peux me tromper.
Quelques mots sur le cas Giroud, parce qu'il y aura sans doute un feuilleton encore, ça va continuer jusqu'à la liste Giroud ou pas avec le Qatar. Déjà, Jean-François Pérez, la Coupe du Monde au Qatar, Jean-François Pérez, comment s'est comporté Giroud ce soir? Quel match a-t-il fait?
C'était un match anti-Giroud au possible.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans ces cas-là? C'est impossible de le juger. C'est-à-dire que ses partisans vous diront qu'il était impossible de se démarquer ce soir et de briller parce qu'il n'a pas eu un ballon d'avant-centre. Alors il a joué, évidemment, il a remisé, il a tenté encore comme il a fait jeudi avec Mbappé. On sentait qu'il y avait une envie de faire la même chose et de produire le même type de prestation. Mais la vérité du match ce soir n'était pas celle de jeudi, loin de là. Du coup Giroud n'a pas eu un seul bon ballon exploitable et vous savez que le métier de Giroud, au-delà de faire des remises, c'est de marquer des buts. Ce soir il n'y a pas eu une seule occasion, donc ceux qui l'aiment bien vont dire il s'est dévoué pour la cause, il a quand même servi de point d'attache etc. pour les attaques, et puis ceux qui estiment qu'il n'a pas sa place vont vous dire que Giroud dans ce genre de match c'est un fantôme et qu'il ne sert à rien. Voilà. On n'a pas plus avancé.
Autant le buzz invraisemblable sur sa forme et sur son niveau après mercredi, moi me semblait vraiment d'autant qu'il fallait quand même voir à quoi ressemblait l'Autriche, ça semblait excessif. Autant lui mettre sur le dos la défaite de soir serait d'une injustice absolue, en fait. Alors il y aura un effet de balancier, évidemment, comme toujours. Je pense qu'il faut quand même raison garder et respecter le joueur, quoi.
Vous dites?
Parce que c'est.
Il est pris dans un
contexte. Aujourd'hui, ils se sont fait marcher dessus.
Ça les trouve.
Mais dans deux mois, il est sur le banc.
Exactement, voilà.
Non, mais je veux bien qu'on en discute.
Il est sur le banc ou il est chez lui?
Oui. Mais le titulaire, normalement, c'est pas lui.
Ah ben, bien sûr.
Non, mais je veux dire, on parle d'un backup, pas. En gros. Mais qui peut rendre des services dans la compétition. Qui est le numéro 2 légitime derrière Karim Benzema, parce qu'il n'y en a aucun qui s'est détaché, ou aucun, en tout cas, qu'on a fait monter en puissance dans cette équipe de France. Donc voilà, quand on n'a pas le ballon, oui, évidemment, Giroud,
même
c'est compliqué.
Quand il est rentré, c'était difficile pour lui de faire des choses intéressantes. Il a tenté, mais on ne l'a pas vu. On l'a pas vu parce que c'était difficile. La relation milieu, comme je l'ai signalé, la relation milieu-attaquant a été... très très faible aujourd'hui, et les attaquants c'était
compliqué.
Mais pour toi c'est venu plutôt c'était plutôt un problème des demi-défensifs ou des mecs sur le côté?
Je crois que c'était un niveau d'ensemble, il y a eu une relance qui était trop difficile, trop lente, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué vers l'arrière, on l'a vu à l'image de Camavinga en première période, après ils ont été... Je crois que la grosse qualité de cette équipe du Danemark, c'est qu'ils ont complètement étouffé l'équipe de France, ils les ont empêchés de développer leur jeu. Et à partir de là, on n'a jamais réussi à s'en sortir. Et c'est ça la grosse difficulté. Ils nous ont pressés, ils nous ont marché dessus et ils nous ont été supérieurs
tout simplement.
Ils ont été supérieurs sur ce match.
Parce que nos leaders, les individualités qui font la différence, parce que ce scénario-là, Jackie, il se produit souvent contre l'équipe de France, sauf qu'il y a des joueurs qui arrivent à faire la différence tout seuls.
Ouais.
Mbappé, Benzema ou d'autres. Oui. Griezmann à une certaine époque aussi, même avec les coups de pied arrêtés.
À la Ligue des Nations.
Mais tout ça, c'est fini, on ne peut plus s'appuyer là-dessus.
Oui, mais on verra qui sera là dans deux mois, parce que le contexte est quand même important. Je suis désolé, moi, l'équipe du Danemark, c'est son équipe type ce soir. C'est quasiment, quoi. Moi, je demande quand même à voir dans un autre contexte, avec d'autres joueurs présents. Dans deux mois, là, qui va se souvenir de cette composition d'équipe? La moitié vont, la moitié ne seront pas à la Coupe du Monde.
Les trois quarts.
Donc, moi, je pense qu'il y a surtout le train qui est passé pour certains ce soir.
Ouais.
Plus que réellement, ça nous renseigne sur ce que.
Camavinga notamment.
Camavinga, pour moi, il est pas invité, tout simplement. Upamecano, il est pas invité. Voilà, c'est comme ça que je le vois.
Dans ces cas-là, je comprends, mais dans ces cas-là, tu vas rechercher Konaté, qui a jamais qu'un match et qui est pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont derrière offrent pas beaucoup de garanties quand même. J'entends ce que tu dis, c'est vrai
toute
que
la problématique.
Mais voilà,
de la
c'est-à-dire que où ils sont blessés, où ils sont inexpérimentés, où ils sont.
Là, on peut que spéculer. Je veux dire, mais globalement, je suis désolé, 15 absents, 14 absents. Je dis pas que les 15 vont revenir au top dans deux mois, mais si t'en as déjà plus de la moitié qui sont au top. Mais c'est pas du tout la même histoire et pas du tout la même équipe.
Oui, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Varane n'a pas joué aujourd'hui?
Il le préserve peut-être.
Je pense qu'il le met dans le coton.
Ouais, ouais, il a bien raison.
Il est blessé quand même comme Dembélé. Badiachil, par exemple, pour parler de lui, qui est excellent contre l'Autriche, il est peut-être bien meilleur aussi quand il est encadré par Varane que par Upamecano ce soir.
Je pense que Varane, c'est incontestable. Varane, c'est son meilleur. En fait, c'est son meilleur. Je trouve que c'est son meilleur apport. C'est-à-dire que tout le monde le trouve juste, en fait, y compris les joueurs eux-mêmes. Seulement, remarquez que contre le Danemark, quand il sort sur blessure, il y a encore un zéro pour les Bleus. Et une fois qu'il est sorti, la ligne de hors-jeu est plus respectée, les Hernandez font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'effectivement, Varane a un rôle structurant dont tu ne peux pas te passer, indépendamment de son impact et de sa qualité physique.
Jean-François Pérez, pour vous, qui n'est pas invité dans ceux qui ont joué aujourd'hui, qui sont entrés ou qui étaient titulaires? On en a désigné un ou deux avec Nabil. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres qui, pour vous, ont manqué le coche, tout simplement?
Là, je vous ai écouté, je suis d'accord avec vous, en effet, pour Upamecano en particulier. C'est hélas pas la première fois en équipe de France qu'il montre ses limites techniques, notamment. Je pense qu'il est, voilà, il n'est pas encore au niveau, tout simplement. Hein. Je vais quand même vous donner deux noms de joueurs qui n'étaient pas là, mais les absents ont toujours tort. Et Didier Deschamps a donné des chances durant ce stage à Colomoigny, par exemple, à Truffert pour la dernière demi-heure de ce match. Il y a deux joueurs que je n'ai pas vus, moi, cette semaine. C'est Matteo Guendouzi et c'est Jordan Veretout. Donc, je pense que pour ces joueurs-là, ça va être très difficile de se hisser dans la liste.
C'est un signal pour vous?
Bien sûr.
Que les deux Marseillais n'aient pas été titulaires ou n'aient pas eu de temps de jeu, c'est un signal.
Après,
surtout Guendouzi, je trouve, moi, par rapport à Fofana.
Il aurait pu apporter Guendouzi pourtant aujourd'hui sur le match d'aujourd'hui.
À l'Agnac, vous avez raison. Il a de la personnalité, il aurait pu être intéressant.
Après, quid de l'état de N'Golo Kanté? J'ai quand même l'impression qu'il est blessé deux jours sur trois depuis trois saisons.
Oui, s'il revient, il ne sera peut-être pas au sommet de sa
forme. C'est ça le problème. Et puis, c'est des problèmes récurrents aux genoux. Il y a quand même des choses. Moi, c'est ça le problème. J'entends, évidemment, Lucas Hernandez est un grand joueur.
Et Théo Hernandez à gauche, c'est quelque chose.
Si on lui demande pas de défendre, mais Lucas Hernandez, il ne va pas s'acheter un genou en deux mois non plus. Moi, j'ai peur de ça.
On n'a pas vu Dembélé non plus.
Et oui, blessure au mollet.
Ça, c'est il était pas en état.
Il était pas en état. C'est ça. 15 blessés au total, on le rappelle.
Pas de risque.
Merci Jean-François Pérez de nous avoir accompagnés.
Je vous en prie.
La France nous a inquiétés ce soir, l'équipe de France 2-0. Victoire du Danemark. Merci à nos experts Jackie Bonnevet, Nabil Djellit et Grégory Schneider. Le sport revient demain. Nous sommes là chaque soir, vous le savez, entre 20h et 23h. Demain, on démarrera notamment avec le Sud des légendes. Et on reviendra sur cette équipe de France inquiétante.